Bienvenue dans cette exploration pensée spécialement pour la communauté CML Poker. Aujourd'hui, on attaque les fondations, vraiment, du jeu en micro-limite, donc de la NL2 à la NL50. Et on va décortiquer un aspect crucial, souvent un peu mis de côté, la stratégie pré-flop.
Ouais, c'est tout à fait ça. On a souvent l'image, tu vois, des gros bluffs post-flop, des calls de folie.
Oui, le côté spectaculaire.
Voilà. Mais la réalité des micros, ben, ce qu'on voit dans les analyses de main, dans les discussions, c'est que la solidité avant même de voir le flop, c'est non négociable. C'est la base de tout, quoi.
C'est le socle. Et c'est justement ce qu'on va creuser aujourd'hui. Notre but, extraire l'essentiel de ces stratégies pré-flop, pointer du doigt les erreurs qu'on voit tout le temps aux tables de NL2 à NL50.
Ah oui, il y en a pas mal.
Et aider à construire un plan de jeu clair et qui marche, quoi. Alors, on commence par quoi ? Le fondamental du fondamental. La position. On le répète tout le temps, mais pourquoi c'est si important justement en micro ?
La position. C'est simple, c'est le super pouvoir du joueur de poker. Et en micro, c'est peut-être encore plus vrai.
Pourquoi ?
Ben parce que les adversaires, à ses limites, ils font plus d'erreurs, ils sont souvent plus lisibles, on va dire. Être en position, donc agir après les autres, typiquement au bouton, le BTN, au cut-off, CO, même au hijack, HJ, ça donne un avantage d'info qui est juste énorme. On voit ce que les autres font avant de parler.
Ce qui permet, j'imagine, de mieux choisir la taille des mises, de décider si on veut faire grossir le pot ou pas. Un contrôle bien plus grand, en fait.
Exactement. Et ça, ça ouvre la porte à des bluffs qui passent plus souvent ou alors à mieux valoriser nos grosses mains. Post-flop, les décisions deviennent tellement plus simples quand on parle en dernier.
D'accord.
La règle d'or, qui ressort de toutes les stratégies gagnantes, elle est simple. On ouvre beaucoup plus de mains quand on est près du bouton et on resserre, mais alors drastiquement, sa sélection quand on est en début de parole, genre UTG, MP...
Logique. Alors, parlons du style de jeu qui semble dominer à ses limites. Toutes les sources, les coachs, tout ça, ça pointe vers le style tag agressif, le fameux tag. Pourquoi cette approche marche si bien ?
Le style tag, il est super performant en micro parce qu'il exploite directement les tendances de la majorité des joueurs là. Beaucoup vont payer avec des mains assez faibles, les fameuses calling stations.
Ah oui, on les connaît.
Ils bluffent souvent assez peu ou alors de manière pas très efficace. Et surtout, leur capacité à s'adapter, elle est souvent limitée, on va dire.
Donc en étant tight, on choisit des mains de départ plutôt solides, et en étant agressif, on prend les devants, on relance, on surrelance, au lieu de juste payer. C'est ça.
On mise sur la force de nos mains et on met la pression. On parle souvent d'avoir un avantage d'équité, c'est bien ça ?
L'équité, oui. Peux-tu rappeler vite fait ce que c'est ?
Bien sûr. L'équité, en gros, c'est la part du pot qui devrait nous revenir en moyenne si on allait jusqu'au bout de la main. En jouant tag, on s'assure la plupart du temps d'entrer dans le coup avec un avantage d'équité dès le départ.
D'accord.
Et l'agressivité pré-flop, ça permet aussi de gagner le pot tout de suite, sans même voir le flop. Ce qui est très rentable aussi.
Ok. Et concrètement, une range tag UTG, ça ressemble à quoi ? Ce que tu disais, très serré.
Ah oui, très très serré. On parle des paires servies, disons, à partir de paires de 6, 6-6 plus. As-Valet off-suite, Ajo et mieux, Roi-Dame off-suite, Kakyo, les As-suitées assorties, quoi, à partir de As-5, As-5S plus, et Roi-Valet suité, KJS plus, ce genre de choses.
C'est vraiment pas beaucoup de mains, hein. C'est hyper sélectif. Et ça s'élargit après, petit à petit, jusqu'au bouton où là, on pourrait jouer... 40-45% des mains, c'est ça ?
Exactement. La différence est énorme. Et ça montre bien l'impact de la position.
Tout à fait. Passons aux tailles de relance standard, l'open raise. Est-ce qu'il faut se prendre la tête avec ça ?
Les analyses montrent que la simplicité, ça paye souvent en micro. Une approche standard qui marche bien, c'est relancer à 2,5 fois la grosse blinde, la BB, depuis la plupart des positions, UTG, MP, CO, BTN.
Simple et efficace.
Peut-être une petite nuance en small blind, la SB, ou 3 BB, c'est souvent mieux, parce qu'on sera toujours hors de position après le flop.
Ok, ça se tient. C'est une bonne base. Et face aux limpers, ces joueurs qui se contentent de payer la blinde, on en voit partout en micro, non ?
Oh que oui, c'est très fréquent. Alors, contre un ou plusieurs limpers, le but c'est d'isoler le joueur qu'on pense le plus faible, et si possible, en étant en position sur lui. C'est l'iso-raise.
L'iso-raise, d'accord. Et on mise combien, là ?
Une règle qui marche bien, c'est 4 bibis de base plus 1 bibi en plus pour chaque limper qui est déjà dans le coup.
D'accord. 4 bibi plus 1 par limper. Et pourquoi cette taille spécifiquement?
L'idée, c'est de rendre le call moins tentant pour les autres, tu vois. Et de construire un pot déjà un peu sympa face à un joueur qu'on estime plus faible, contre qui on a souvent une meilleure main, et surtout, on a l'initiative. On va jouer en tête-à-tête si possible.
Très clair. Ce qui nous amène logiquement à la question, et nous, est-ce qu'on doit limper?
La réponse qu'on entend partout, c'est non, quoi. Sauf cas hyper rare.
C'est un conseil fondamental, ouais.
Limper, ça envoie souvent un signal de faiblesse ou d'une main qui veut juste voir un flop pas cher. Ça invite les autres à rentrer dans le coup pour pas cher non plus. Ça crée des pots multi-way.
L'horreur, quoi.
Exactement. C'est souvent ingérable, surtout sans l'initiative. C'est rarement une stratégie gagnante sur le long terme.
J'ai vu des débats sur une exception minuscule, genre compléter en SCB avec une petite paire si le joueur en BB est un méga fiche passif et qu'on espère flopper un brelin. Mais bon.
Oui, mais là, on est vraiment dans le détail du détail. C'est très situationnel, ça demande une bonne lecture post-flop. Pour 99% des cas en micro, la discipline « raise or fold », « je relance ou je me couche avant le flop », c'est vraiment la meilleure approche.
Parfait, les bases sont bien posées. Alors, si on s'appuie là-dessus, on peut maintenant regarder les erreurs les plus fréquentes, celles qui coûtent le plus cher à ces tables. Souvent, corriger ça, c'est le moyen le plus rapide de progresser. C'est quoi l'erreur numéro 1 qu'on voit dans les analyses simples?
Sans aucun doute. Mais alors vraiment, jouer trop de mains hors de position, OOP, out of position, c'est un vrai gouffre à pognon. L'exemple typique, c'est payer une relance depuis la grosse blinde, la BB, avec une main genre 7-6 suited, 7-6S, contre une ouverture UTG.
Ah oui, le joli connecteur assorti. On se dit, ça a du potentiel. Mais on se retrouve post-flop avec une deuxième paire, un tirage moyen, face à un gars qui a montré de la force et qui parle après nous.
C'est ça. C'est la recette pour des décisions pourries et coûteuses. Faut être beaucoup, beaucoup plus strict hors de position.
D'accord. Autre erreur fréquente?
C'est un peu l'inverse. Ouvrir des mains trop faibles depuis les premières positions. EP, Early Position, genre UTG.
Ah ça, on le voit tout le temps. Des ouvertures avec Dame-Valet offsuit, QJO ou As-9 offsuit, A9O, depuis UTG. Pourquoi c'est si mauvais?
Quand t'ouvres UTG, t'as toute la table qui parle après toi. Les joueurs qui vont payer ou te relancer, ils auront souvent des mains qui écrasent ton QJO ou ton A9O. Tu te mets volontairement dans une situation où t'es souvent derrière et en plus t'es hors de position. C'est structurellement perdant, EV, sur le long terme.
Logique implacable. Troisième erreur classique, d'après ce qu'on a lu, la passivité depuis les blindes. Le fait de trop souvent juste payer, coller les relances adverses.
Oui, le call depuis la SB ou la BB, c'est souvent une solution de facilité qui coûte cher. Si on paye sans avoir un plan clair pour le post-flop, sans trop savoir comment notre main va jouer contre la range adverse supposée, il faut vraiment penser aux autres options. Mais le 3-bet, donc sur-relancer, ou le fold, se coucher. Le call passif OOP, ça mène trop souvent à subir.
Ce qui nous amène direct à la quatrième erreur pointée. Ne pas assez 3BT. On dirait que beaucoup de joueurs hésitent à utiliser cette arme. Pourquoi c'est si important d'intégrer le 3BET dans son jeu?
Le 3BET, c'est crucial pour deux raisons principales en micro. D'abord, pour la valeur, la value, pour prendre plus d'argent avec nos grosses mains, genre les As, les Rois, les Dames, As-Roi, face aux joueurs qui payent trop large. Les loses.
Ok, la value, ça on voit. Et la deuxième raison?
La deuxième, c'est en bluff ou semi-bluff, le light 3-bet. C'est pour exploiter les joueurs réguliers qui ouvrent beaucoup de mains, surtout en fin de parole, CO, BTN, mais qui vont se coucher trop souvent face à une sur-relance. Ça permet de voler des pots directs pré-flop et de prendre l'initiative. C'est là qu'intervient cette notion de fold equity.
La fold equity. Peux-tu nous rappeler ce que c'est exactement?
Bien sûr. La fold equity, c'est la valeur qu'on gagne juste parce que notre adversaire peut se coucher face à notre mise ou notre relance. Quand on fait un 3-bet en bluff, on compte pas seulement sur notre main, mais aussi sur la chance que l'autre jette ses cartes. C'est une partie super importante du profit au poker moderne.
D'accord. On a vu les erreurs, passons aux solutions. Comment on construit des ranges pré-flop qui soient à la fois solides, mais aussi adaptées pour exploiter ces erreurs? Reprenons les ranges d'open raise par position. On a parlé d'UTG très serré.
Oui, UTG, c'est vraiment le minimum. En position intermédiaire, MP, middle position, on peut commencer à ajouter des mains comme As-10 off-suit, Ato, Roi-Valet off-suit, 4-jo, Dame-Valet suité, QGS, 19 suité, T-9s. La range s'élargit un petit peu.
Et au cut-off, CO, là, ça commence à s'ouvrir plus franchement.
Carrément. Au CO, on ajoute des connecteurs assortis plus bas, genre 87, 66. On ajoute plus d'AS assortis, les AX, et la plupart des Broadway off-suite, les mains avec deux cartes au-dessus du 9, pas assorties. On commence vraiment à mettre la pression sur les blindes.
Et le bouton ? Le BTN, alors là, c'est oh la fête. Tu parlais de 40-45%, ça veut dire quoi concrètement ? Qu'est-ce qu'on ouvre ?
Au bouton, on ouvre très large, plein de mains assorties. Les sous-têtes connecteurs, les sous-têtes gappers, avec un petit écart, tous les AX, les KX potables, toutes les paires, les bons As et Rois off-suite, et même certainement off-suite connectés ou avec un petit gap. Le but, c'est de voler les blindes le plus souvent possible ou de jouer en position avec l'initiative.
Bien sûr, tout ça, ce sont des guides, hein, pas des règles gravées dans le marbre. L'adaptation, c'est la clé. Si on voit que les joueurs dans les blindes 3 bêtes comme des fous, on va devoir resserrer un peu, même au BTN, j'imagine.
Exactement. Et à l'inverse, si les blindes sont super passives, qu'elles se couchent tout le temps ou qu'elles pèsent sans trop savoir pourquoi, là, on peut ouvrir encore plus large pour maximiser le vol de blindes. Faut sentir la table, quoi.
Passons au range de 3 bêtes. Comment on fait la part des choses entre la value et le bluff ?
Pour la value en micro, c'est assez simple. QQ+, donc dame-dame et mieux, et AK, as-roi, suite et doux off-suite. Ça, c'est la base à 3 bêtes contre la plupart des ouvertures pour faire grossir le pot.
Ok, value égale QQ+, AK. Et pour le bluff, le light 3 bêtes ?
Un potentiel post-flop, soit des bloqueurs.
Les bloqueurs, encore un terme important. Tu peux expliquer ?
Un bloqueur, c'est une carte qu'on a en main et qui rend moins probable que notre adversaire est certainement très forte. Par exemple, si on tribet light avec As-5 suité, As-5 soutide, le fait qu'on ait un As, ça veut dire qu'il y a moins de chances qu'il ait lui-même AA ou AK. Et ce sont souvent ces mains-là qu'il va continuer face à un 3-bet. Donc, ça augmente un peu nos chances qu'il se couche, notre fameuse fold equity.
Malin.
D'autres bons candidats pour 3-bet light, c'est des mains comme KTS, Roi 10 suité, tuté, Dame 10 suité, T-Luff. Elles ont aussi une bonne jouabilité post-flop si on est payé.
C'est très clair. Et là, l'exploitation, c'est tout. Si notre HUD nous dit qu'un joueur au BTN ouvre 50% de ses mains, mais qu'il se couche 70% du temps quand on le tribet,
bingo.
Là, on a une situation de tribet light ultra profitable. On peut élargir notre range de bluff contre lui de manière assez dingue. À l'inverse, contre un joueur très serré qui ne 4-bet, donc qui ne sur-sur-relance quasiment jamais, on peut aussi tribet light plus souvent. Pourquoi ? Parce qu'on ira plus souvent voir un flop et on pourra essayer de réaliser l'équité de notre main.
D'accord. Deux autres mouvements pré-flop importants mentionnés, hein, le squeeze et l'iso-raise. On en a un peu parlé, mais pour être sûr, le squeeze, c'est un tribet qu'on fait après qu'il y ait eu une ouverture et au moins un call. C'est puissant parce qu'il y a déjà de l'argent mort dans le pot, l'argent des calls initiaux. On le fait avec nos premiums pour la value, évidemment, mais aussi en bluff avec des mains qui ont de bons blockers, comme les A6 ou KQ.
Et l'ISO Raise ?
L'ISO Raise, on l'a défini, c'est relancer par-dessus un ou plusieurs limpers. C'est vraiment une stratégie de base contre les joueurs passifs. On le fait avec une range de mains qui domine leur range de limp probable, genre AJ+, KQO, les Broadway, les paires moyennes et plus, les bons suited connectors.
Et pour ces deux moves, squeeze et iso raise, la taille de la relance est importante, non ?
Souvent plus chère que nos relances standards pour maximiser la fold equity. Oui, tout à fait. Surtout pour les squeeze, où quand il y a plusieurs limpers, faut mettre assez cher pour décourager les calls multiples. Un dernier rappel avant de parler adaptation, en cas de doute, quand on est hors de position avec une main moyenne, le bouton fold, c'est souvent le meilleur ami du joueur de micro. Vraiment, évitez les calls passifs OOP sans un plan très clair.
Message reçu. C'est fondamental. Bon, on a les outils, les ranges de base. Maintenant, le truc, c'est de les ajuster en fonction des joueurs à la table. C'est là que ça devient dynamique. Commençons par le profil qu'on croise le plus en micro. Le joueur récréatif, le fish.
Alors, contre les joueurs récréatifs, le but numéro un, c'est de jouer des pots contre eux. Si possible, en position et en ayant pris l'initiative. Donc, logiquement, on va élargir nos ranges d'ouverture quand ils sont dans les blindes, surtout depuis le CO et le BTN. Et on va iso-raise leur limp de manière quasi systématique et avec une range assez large.
Donc contre un fish, on pense moins à équilibrer nos ranges et beaucoup plus à exploiter directement ses faiblesses, c'est ça ?
C'est exactement ça. On adapte aussi nos 3 bêtes. Ici, se couche beaucoup face aux 3 bêtes. On 3 bêtes light plus souvent, s'il paie tout le temps, s'il overcall.
Le fameux.
Alors, on resserre nos trois bêtes uniquement sur nos grosses mains, de value, QQ+, AK. On cible directement sa tendance, soit il fold trop, soit il paie trop.
Logique. À l'opposé, comment on joue contre un joueur très serré, un nit, comme on dit ?
Contre un joueur très serré, on va chercher à abuser de sa passivité pré-flop. On va attaquer ses blindes très agressivement depuis le CO et le BTN, parce qu'on sait qu'il ne va défendre qu'avec une range très, très étroite.
On lui vole ses blindes, quoi.
Voilà. Par contre, on va moins freebet en bluff contre ses ouvertures, parce que quand il ouvre, sa range est déjà forte. Mais on pourra parfois juste payer, flat call, en position avec des mains à potentiel, petite paire, suited connector. Pourquoi ? Parce que s'il mise fort post-flop, on sait souvent où on en est. Soit on a touché, soit on est battu.
Ok. Et le dernier profil typique ? Le joueur agressif, le LAG, loose agressive ou juste aggro ?
Alors face à un joueur agressif qui relance beaucoup, qui freebette beaucoup, il faut ajuster notre propre agressivité. On peut envisager de trapper plus souvent nos grosses mains.
C'est-à-dire ?
Au lieu de toujours 4 bêtes AK ou KK, on peut parfois juste payer son 3 bêtes. L'idée, c'est de le laisser continuer à bluffer sur le flop, la turn, la river. On lui tend un piège.
Malin. Et on peut aussi envisager de 4 bêtes nous-mêmes en bluff, avec des bons bloqueurs, s'il 3 bêtes vraiment trop loose.
Absolument. Contre un joueur très aggro, faut être prêt à jouer des pots plus gros, mais en choisissant bien ses spots. L'important, c'est d'essayer de voir s'il est agressivement compétent ou s'il est juste un peu spioey, s'il en met partout sans trop réfléchir.
D'accord.
Soit on le laisse s'empaler sur nos monstres, soit on le contre-attaque agressivement quand on sent qu'il dépasse les bornes.
Et pour faire toute cette adaptation fine, l'utilisation d'un tracker et d'un huddle heads-up display, ça semble quand même quasi indispensable, d'après les retours. Les stats comme le VPIP, le PFR, le fold to 3-bet...
Elles sont cruciales, oui. Ces stats, elles donnent des infos objectives sur les tendances des adversaires. Ça permet d'ajuster notre stratégie pré-flop de manière ciblée. Le VPIP... Voluntarily put money in pot et le PFR, pre-flop raise, ça donne une idée générale du style flop. Serré, large, passif, agressif.
Mm-hmm.
Le fold to 3-bet, ça dit à quel point il respecte les sur-relances. Le 3-bet pourcent, ça indique sa propre fréquence d'agression pré-flop. Utiliser ces chiffres pour adapter nos ranges, c'est vraiment la clé pour maximiser les gains en micro.
C'est une excellente synthèse de l'importance de l'adaptation. On arrive vers la fin de cette exploration. Si on devait résumer l'idée forte qui ressort de tout ça, c'est que le jeu pré-flop, loin d'être juste une formalité, c'est vraiment la pierre angulaire du succès en micro-limite.
C'est la fondation. Tout le reste se construit dessus. On entend parfois des chiffres peut-être un peu exagérés qui disent que le pré-flop, ça peut représenter jusqu'à 80% du taux de gain, du win rate, d'un bon joueur de micro.
80%? Waouh! C'est énorme!
Quoi qu'il en soit, même si c'est moins, ça montre bien son importance capitale.
Et les bénéfices sont clairs, des décisions pré-flop solides, ça évite de se retrouver dans des spots post-flop impossibles et coûteux, ça permet de garder l'initiative et ça aide à construire un jeu plus propre, plus discipliné et rentable sur le long terme.
Tout à fait. C'est la voie vers un poker solide, qu'on peut répéter session après session.
Pour aider ceux qui nous écoutent à passer de la théorie à l'action, on pourrait peut-être suggérer un petit exercice concret.
Très bonne idée. Alors, un exercice simple mais super utile. Prenez votre tracker de poker et repassez vos 3 dernières sessions. Filtrez pour ne voir que les mains où vous avez eu une décision pré-flop importante à prendre. Ouvrir, payer une relance, 3 bêtes, folder face à un 3 bêtes.
D'accord.
Et pour chaque situation clé, posez-vous la question. Est-ce que j'aurais pu jouer différemment ? Pourquoi j'ai fait ce choix à ce moment-là ? C'était quoi le profil des adversaires en face et comment ça aurait dû influencer ma décision ?
C'est un excellent moyen d'identifier ses propres erreurs qui reviennent souvent et de commencer à intégrer vraiment les concepts dont on a parlé. L'auto-analyse, c'est fondamental.
Exactement. C'est un travail continu. Mais poser des fondations solides, c'est la première étape. Elle est essentielle.
Avant de se quitter, peut-être une dernière petite pensée à méditer. On a beaucoup parlé d'adaptation au profil des joueurs, mais comment on ajuste notre stratégie pré-flop quand c'est la dynamique de la table elle-même qui change en cours de session ? Genre un joueur agressif qui arrive, un joueur serré qui part.
Bonne question.
C'est peut-être un sujet pour une prochaine fois ?
D'ici là, bonne chance aux tables et bonne grind à tous et à toutes.